ça compte avec Éric Auziel.
Tout un plaisir de le retrouver. Il est là chaque samedi, chaque dimanche avec nous autres. Éric Auziel, comment ça va, mon ami?
Ça va super bien. Et je me suis fait une réflexion hier quand j'ai vu la transaction des Blackhawks et des Panthers. Ce que ça nous dit aussi dans cette transaction, tu l'as bien dit, là, bravo à Chicago, c'est que ça nous annonce aussi que c'est terminé pour Aaron Ekblad avec les Panthers l'année prochaine. Il est agent libre sans restriction. Je pense que c'est Seth Jones qui va prendre sa place. Ekblad, c'est un joueur qui a été important. C'est un joueur qui a été repêché premier au total. Oui. C'est un de ces fameux joueurs surclassés quand on les amène dans le junior majeur un peu plus jeune. Donc, c'est un gars qui avait commencé sa carrière de façon brillante dans la Ligue nationale. Il a eu quelques blessures. Il a ralenti. Il est encore important, mais pour moi, je ne pense pas qu'on va regarder Ekblad et Jones l'année prochaine. Donc, c'est ce que ça me dit à moi. C'est la réflexion que je me suis passée.
J'avais pas vu ça de cette façon-là, ou c'est-à-dire, tu sais, 100% honnête, j'avais pas poussé ma réflexion jusque-là, mais j'aime beaucoup ce que tu amènes. Parce qu'effectivement, on amène du renfort à la ligne bleue des Panthers présentement, mais qu'est-ce que ça va changer dans l'échiquier de la formation à moyen-long terme? C'est toute une acquisition là, quand même de Bill Zito, là, ça c'est sûr. Seth Jones n'est plus à son pic, on le sait.
Oui, oui, puis tu sais, c'est logique. On a parlé cette semaine, est-ce qu'on l'amènerait à Montréal, Seth Jones? C'est toujours une question, ben, moi je pense que c'est toujours une question de circonstance. On n'est pas prêt pour Seth Jones. Seth Jones est un joueur qui a une belle réputation, mais qui est beaucoup plus, pour moi, défensif qu'offensif maintenant. Tu sais, c'est un gars qui a 27 points, 28 points avant le match d'hier. Il va peut-être finir avec 35 points cette année, peut-être 40 points. C'est pas un joueur offensif à la Dobson, disons, qui lui aussi peut être disponible. Fait que on n'a pas besoin de lui présentement à Montréal, tandis qu'à en Floride, ils veulent répéter, ils savent qu'ils vont avoir besoin d'un joueur comme ça dans les séries. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne... Je m'attendais plus que Dallas essaye de faire quelque chose parce qu'il voulait aller à Dallas, mais peut-être qu'il va être plus utile, en tout cas, avec les Panthers.
Ouais, puis écoute, ça peut lui donner une chance de faire un bout de chemin en série. Ouais. C'est un peu comme... Je me demande, par exemple, tu sais, les Blackhawks, oui, on gagne cette transaction-là, on va chercher un autre choix de premier tour. Ça, c'est parfait. Mais c'est un autre vétéran qui quitte le vestiaire. Là, il reste qui, là, comme vétéran pour entourer Connor Bedard, Kevin Korchinski, ces jeunes joueurs-là? Va falloir qu'on fasse le plein de ça à Chicago dans l'entre-saison. Là. Oui, la reconstruction, c'est parfait. On sait que les Blackhawks sont dans cette phase-là présentement. Connor Bedard est... Sans contredit, la pièce maîtresse de tout ça, Éric. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui va venir mettre ça en doute. Mais ça prend des vétérans pour les entourer. Et là, tous ceux qu'on est allés chercher sont plus là ou presque. Là,
ouais. Il y en a deux qu'on a amenés qui
sont il reste Foligno. Mais il ne peut pas tout faire tout seul non plus. Là.
Non, mais tu sais, on avait amené Taylor Hall, il est parti. On avait amené Corey Perry, rappelle-toi, il est parti.
Ça a été une expérience de courte durée, d'ailleurs.
De courte durée, exactement. C'est, j'ai la même réflexion pour les Blackhawks que j'avais hier soir en regardant les Sabres. Et je me dis, comment cette organisation-là est gérée, tu comprends? De loin, on dirait que c'est mal géré. Je regardais les Sabres hier, là, on va en parler tantôt peut-être, Greg. C'est une équipe qui a pas des mauvaises statistiques au niveau du différentiel. On a alloué moins de buts que le Canadien. On a un meilleur différentiel de buts pur contre. Mais ils se tirent toujours une balle dans le pied. Ils font beaucoup de revirements. Puis ils auraient pu gagner le match hier. Puis bravo Canadien. On va en parler tantôt. Mais c'est la même chose pour les Blackhawks. Des fois, tu te dis, ben voilà, ça explique tout. Pourquoi les Sabres? Ça fait depuis le plus longtemps dans la Ligue nationale qu'ils n'ont pas fait les séries, c'est cette équipe-là. Puis les Blackhawks, depuis qu'ils ont descendu après leurs trois Coupes Stanley, ils n'ont pas retrouvé cette magie qu'ils ont eue avec les années de Taves, de Kane et de Duncan Keith et Seabrook et tout ça. Fait que, puis tu sais, je rappelle-toi, ces trois Coupes Stanley-là n'ont pas été faites. N'ont pas été gagnés avec le même alignement, les Blackhawks. Ils ont réussi à se renouveler, ramener des joueurs qui ont ramené un autre souffle, une autre énergie.
Devant
là,
les
c'est
buts,
plus
notamment.
La même organisation.
Devant les buts, notamment. Là. On avait fait un changement de gardien aussi. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les Blackhawks, cette reconstruction-là, mais surtout, je vais faire un petit plug, je vais écouter les chums de Processus, n'est-ce pas? Leur ouais. analyse, parce que eux, j'imagine qu'ils vont jaser de ça. Tu sais, la transaction des vétérans vient impacter les jeunes aussi. Eux autres, ils suivent ça. C'est sûr que tu vois ça comme une bonne nouvelle. Tu as un choix de premier tour, puis tu viens d'aller chercher un gardien de but. À moins que je me trompe, on n'avait pas un gardien de but d'avenir là, chez les Blackhawks. Est-ce que Spencer Knight est ce gardien de but-là? Il reste encore.
Il faut.
Ben,
il faut.
Oui, il reste encore des points d'interrogation. Mais c'est certain que là, présentement, il n'y avait plus de place pour Spencer Knight en Floride, là, qui devienne le gardien d'avenir. Puis pour développer un gardien, écoute, je vais vous donner là, un scoop. Là. Pour développer un gardien, il faut qu'il joue. Ça, c'est le scoop de la journée.
Là, je vois que toutes tes nombreuses heures passées sur la galerie de la presse au Centre Bell commencent à porter fruit. tu deviens un fin connaisseur de hockey.
Vous l'aurez entendu ici, on vient de sortir notre extrait des médias sociaux. Pour développer un gardien, faut qu'il joue. Tiens, tu mettras ça partout.
Il faut qu'il joue, oui, mais il doit aussi être bien entouré au niveau défensif parce qu'à un moment donné aussi, c'est une question de confiance,
c'est sûr.
Tu comprends? Mais j'imagine que Seth Jones était un des joueurs convoités cette semaine. Donc, si on a décidé de le bouger plus vite que plus tard, c'est qu'on se dit c'est Spencer Knight qui va être notre gardien d'avenir pour les 5 à 10 prochaines années, clairement.
Ben oui, et ça, on va voir son développement. Ou est-ce que,
mais t'es moi, d'accord, Craig, que rien ne nous surprendrait avec les Blackhawks de Chicago ces temps-ci?
Non, absolument. Mais je trouverais ça vraiment triste. Écoute, je trouverais ça tellement triste qu'on rate le développement de Connor Bedard. Ce serait impardonnable que tu t'en vas chercher un... En fait, il leur est tombé dessus. Là. Ils ont gagné à la loterie, tout ça, là. Ce serait impardonnable qu'on manque. Oui, vas-y, Jacob.
Ouais, je veux faire du pouce là-dessus, Eric. On n'a pas le luxe, en fait, du côté de Chicago de se tromper sur la prochaine classe de vétérans là, du côté des Hawks. Là. Comme Greg l'a dit, du côté de Connor Bedard, oui, il est encore très jeune, mais à un moment donné, il va falloir bien l'entourer. Là, si, de un, s'il veut on veut qu'il reste à Chicago et si on veut qu'il se développe adéquatement. Là.
Oui, mais il y a lui aussi, il y a des choses à lui aussi à regarder, tu comprends? Parce que dans son jeu, il crée beaucoup de revirements. Puis il va ajouter, il va les adapter. Il est hyper talentueux. Mais tu sais, je vais vous faire un parallèle. C'est pas le même type de joueur, mais combien d'années ça a pris avant qu'on voit qui était Jack Eichel? C'est quand il est arrivé avec Vegas. Puis je fais encore le même parallèle. Il y a des organisations qui ne développent pas bien leurs joueurs, qui ne prennent pas soin de leurs jeunes joueurs, qui les entourent pas comme il faut. Et puis, tu pourras regarder tous les joueurs de talent qu'il y a avec les Sabres de Buffalo. C'était impensable pour moi que les Sabres de Buffalo soient encore derniers dans l'Est, avec le talent qu'ils ont.
Ah, ça se peut pas. T'sais, quand tu parles de développement, tu sais, t'as pas... En fait, on a mal fait dans le dossier Jack Eichel, les Sabres, comme tu l'as bien dit. On a vraiment mal fait dans ce dossier-là, mais présentement, encore avec le talent qu'on a, mais t'as pas un Connor Bedard, justement. T'sais, imagine avoir ça dans ta formation puis pas être capable de l'entourer, pas être capable de bien développer. T'sais, on peut pas se tromper avec les choix repêchage. Il y a rien qui nous surprend puis on va s'en aller vers le Canadien par la suite, là. Mais en même temps, j'aimerais ça voir comment on va gérer ça dans le dossier. Mettons, là, dans 4 ans, les Blackhawks sont encore dans le fond de la cave puis on n'est pas capable de sortir de là. T'es le camp Connor Bedard. Là. Son agent, qu'est-ce que tu fais?
Ben moi, je vais te dire ce que je pense que le camp de Connor Bedard va demander. Qui est le prochain entraîneur-chef?
Ben, c'est pas juste l'entraîneur-chef, là. C'est l'entraîneur-chef, le directeur général. Qu'est-ce que vous allez faire pour me garder ici? Là? À un moment donné, il va falloir que la question se pose, parce que si t'es un joyau comme Connor Bedard, imagine aussi ce que Chicago pourrait avoir en retour de lui. Là. Puis là, je sais qu'on spécule. Là, on est rendu, là, on va dire comme notre boss, là, on est loin. Là. On est rendu
on est loin parce qu'avec la convention collective, là, il ne s'en va pas nulle part pour l'instant. Puis je vous rappellerai, puis je rappellerai à nos auditeurs que ça a été long aussi du côté des Oilers d'Edmonton. On a eu des premiers choix au repêchage. J'en ai eu quelques-uns. Ça a été long. Puis tu sais, McDavid, même si au niveau statistique, McDavid est extraordinaire avec Draisaitl, ils n'ont pas encore obtenu l'objectif pour lequel ces gars-là jouent, c'est la Coupe Stanley. Ça se peut que ça soit cette année, ça a passé très proche l'année passée, mais je pense que moi, je vois deux choses là-dedans. Il y a le développement de Bédard, c'est comment on l'encadre, mais il est encore très jeune, puis on va attendre de voir. Il y a encore moyen de réaligner le tir, je pense, du côté des Blackhawks. Alors, mais avec le recul, rappelle-toi, Greg Jacob, il y a quelques années, « Hey, Kirby Dach, voyons donc, qu'est-ce qu'ils font à Chicago? Ça n'a pas de bon sens. » Mais tu sais, des fois, ça prend un petit peu de temps avant de découvrir, ben finalement, ils ont peut-être identifié plus rapidement que nous autres que c'est pas un joueur de centre, de premier trio.
Non, ça, c'est de premier trio, ça, effectivement. Mais eux, c'est ce qu'ils pensaient quand ils l'ont repêché troisième au total.
Oui,
mais
ils se sont rendus compte et ils ont décidé de le bouger. OK? Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais avec le temps, on se dit, ben OK, on comprend un petit peu mieux. Mais je reviens, est-ce qu'on l'a mal encadré? Est-ce qu'on aurait peut-être dû... Tu sais, à Montréal, moi, je pense que Kirby Dach, au camp d'entraînement, Martin Saint-Louis va peut-être se dire, écoute, on va te donner une chance de revenir dans l'alignement là, sans trop de pression. Troisième ailier droit là, sur un troisième trio, notre ailier droit de troisième trio. Je dis ça puis je dis rien, mais je ne le sais pas. Alors, on va voir, mais je reviens toujours à la même chose. Souvent, on analyse à froid, ça prend un petit peu plus de temps. Moi, je ne suis pas inquiet pour Connor Bedard. Je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il va avoir une très belle carrière, puis je pense que les Blackhawks vont finalement se replacer. Mais ça vient d'en haut. Là, il va falloir que tu ne changeras pas le GM, mais il va prendre un coach. Et je pensais que Luke Richardson était peut-être le bon gars, mais ça va prendre un gars qui va faire en sorte qu'il va bien travailler avec Bédard et qu'il va avoir une influence sur l'organisation pour leur dire « voici le type de joueur que je veux pour aller de l'avant ».
Chez le Canadien, présentement, en tout cas, tout est au beau fixe. Puis là, on met de côté le sujet Kirby Dach. On oublie un petit peu cette blessure-là avec les quatre victoires qu'on a eues là, depuis le retour de la Coupe des Quatre Nations. Tu as deux joueurs bien différents, Éric, que tu veux mettre en lumière ce matin, puis tu as tellement raison, qui ont un impact sur le Canadien présentement. Le premier, d'ailleurs, on va en parler dans 10 minutes, dans notre bloc que j'appellerai les vraies questions. En honneur de notre ami Gilbert, les vraies questions. Lane Hudson et aussi, on semble être porté, et qui aurait pensé ça, semble être porté par Josh Anderson.
Entre autres. Écoute, Lane Hudson, c'est son immense talent. Puis on l'avait vu, tu l'avais vu, Greg, on en avait déjà parlé, là, il y avait une petite baisse de régime juste avant le tournoi des Quatre Nations. C'était une longue saison, il prend beaucoup de minutes.
Il a besoin d'un peu de repos, puis c'est normal, là.
C'est un peu normal, oui, tout à fait. Là, il est extraordinaire au niveau de son jeu de pied, au niveau, tu sais, je ne sais pas si tu as vu, on a joué, le Canadien a joué contre Caroline, il y a eu une bataille 1 contre 1 contre Mikko Rantanen qui semble clairement pas très heureux en Caroline, mais il a enlevé la rondelle et on l'a remontré hier sur les réseaux nationaux, là, on a remontré cette bataille 1 contre 1, il a enlevé la rondelle à Rantanen, qui est un gars de 6 pieds 4, qui n'a pas d'affaire à perdre une bataille 1 contre 1 contre Lane Hudson, là, normalement, là, surtout dans le coin de la patinoire comme ça, pour Caroline qui essaie de revenir dans le match. Fait que ce que je veux te dire, c'est qu'il est extraordinaire à plusieurs aspects. Il est tellement bon. Il y a un impact parce que les joueurs autour de lui font comme tu nous mènes vers le haut. Puis je me suis passé une autre petite réflexion. Tu comprends? On a encore la mauvaise habitude de regarder les statistiques, mais surtout les mensurations des joueurs. Owen Power là, a été repêché premier en 2021. Lane Hudson a été repêché 62e en 2022. Viens me dire, là, toi, maintenant, ce matin, là, lequel des deux tu prendrais dans ton équipe?
Hudson, écoute, voilà. Hudson, il n'y a pas aucune hésitation.
Mais Power est un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Est un gars, je ne te dis pas qu'il n'est pas bon. Il est mal développé présentement. Là. Tu sais, je le regarde aller là, hier, là, des revirements. C'est pas concluant pour moi, Owen Power. Ceci étant dit, Hudson, 62e, l'année d'après, c'est pas la même cuvée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il amène beaucoup plus à une équipe présentement. Fait que moi, Lane Hudson, c'est une belle découverte. J'avais pas autant d'attentes envers lui pour sa première saison. Il faut vraiment, là, oui, Wolf à Calgary, oui, je comprends aussi Celebrini, mais moi, le match contre les Sharks, un face à l'autre, j'ai vu que je donnerais mon vote à Hudson pour la recrue de l'année. L'autre joueur qui m'impressionne vraiment là, depuis plusieurs semaines, là, c'est Josh Anderson. Tu sais, ça, dans un vestiaire, Greg, là, quand tu vois un gars comme ça, là, qui a du courage à ce point-là, là, tu le vois après plusieurs présences, là, il revient au banc, c'est pénible, il souffre. Ils prennent une blessure qui est assez importante, d'après moi. Puis moi, je ne serais pas surpris qu'on découvre après la saison qu'il a le même type de traitement qu'un Shea Weber a. Ça veut dire qu'on doit vraiment faire en sorte que ce gars-là soit prêt pour le match, mais après ça, c'est compliqué. Quel courage! Ça, là, ça ne peut pas faire autrement qu'inspirer une équipe et des coéquipiers. Et je pense que ça fait partie du succès de l'équipe. Oui, on a Gallagher, là. Je n'exclus pas Gallagher de l'équation, mais ce n'est pas un hasard que ces deux-là jouent ensemble avec, avec Dvorak, et que Dvorak ait une meilleure saison que les années antérieures.
Oui, Dvorak, ces temps-ci, qui donne du bon hockey aux Canadiens. On peut pas... Ouais. Et là, je comprends que ça fait monter sa valeur aussi avant la date limite des transactions. Quelle est sa valeur? T'sais, est-ce qu'on peut avoir quelque chose en retour de Christian Dvorak qui ne sera pas de retour? Ça, je pense que j'annonce ça. C'est une autre grande primeur qu'on a dans cette chronique-là. Je pense que je peux vous le dire avec, avec assez de confort, là.
Ouais, mais tu vois que cette équipe-là, elle a de la résilience. Puis je pense que il y a plusieurs éléments dans l'équipe. Tu as des joueurs de talent. On le sait que Suzuki amène les gars vers le haut. On le sait. Son trio, il amène le gars vers le haut. Mais je pense qu'un gars comme Josh Anderson, quand un Slavkovski est assis sur le banc, puis on a beaucoup fait référence, lui a fait référence au jeu de Brady Tkachuk. Tu as juste à regarder Anderson, comment il zone à chaque présence. Gallagher, naturellement. Mais Anderson est plus un type d'attaquant de puissance. Il était comme ça avec les Blue Jackets. Maintenant, naturellement, il ne compte pas le nombre de buts qu'on aurait aimé qu'il compte. Mais on ne peut rien lui reprocher, surtout après la dernière saison, l'année passée, où il était très critiqué. Je veux dire, au niveau de son éthique de travail, pour moi, c'est une inspiration. Moi, si je suis dans cette équipe-là, je suis dans un vestiaire, je regarde Josh Anderson, pour moi, c'est comme, hey, lui, il va à la guerre à toutes les présences. Je n'ai pas le choix, moi aussi, d'aller à la guerre, de bloquer des tirs, d'arriver. Puis là, je vais le dire, c'est tellement important parce que dans la Ligue nationale, il y a tellement de gars qui clichent, d'arriver le premier dans le coin, sachant que tu vas te faire frapper solidement, mais de faire tout en ton possible pour arriver premier dans le coin.
Quand un gars ça, comme lui, ça, tu sais, quand un gars comme Gallagher, un guerrier, qui a encore hier, là, Gallagher a fait du Gallagher. Et quand t'as, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer à personne ce que je viens de dire. T'sais, tout le monde comprend quelle est sa personnalité et ce qui l'amène à cette équipe-là. Puis quand tu vois ce que Josh Anderson, qui est clairement diminué au bas du corps, même hier, traitement au haut du corps aussi pendant le match, là, on voyait qu'il a mal, en fait, il a mal au corps, pas compliqué, là, c'est exactement ça. Et tu sais, t'es assis au bout du banc, là, à côté, là. Hey, c'est quoi ma raison à moi, là? Je vais-tu commencer à me plaindre, là? Jacob, voulais-tu ajouter quelque chose avant que...
Non, mais en fait, je pense que tu as bien résumé la situation. Tu peux pas ne pas te donner avec ce type de joueur-là. Ben,
c'est ça.
Tu traînes l'équipe. C'est un excellent leader en ce moment. Puis peut-être qu'il compte pas les buts, justement, comme Eric le disait, au niveau de son salaire, mais on peut rien lui reprocher présentement. Puis c'est ce qu'on veut d'un gars comme Josh Anderson.
Puis je pense, tu sais, les deux joueurs que je t'ai nommés, je pense que ça a un impact sur un joueur comme... je sais pas si vous avez vu, là, Jacob... Struble est un joueur transformé dernièrement.
Ouais.
Je sais que sur les stats, il est moyen hier, là, mais il est physique, et il est fort. C'est une force de la nature, ce gars-là. Puis il paraît pas mal avec Hudson. Là.
Non.
Et je dirais que présentement, au moment où on se parle, c'est peut-être pas ce qui va arriver dans deux semaines, mais il est en avant de Jack Hyde en hiérarchie, là, présentement.
Présentement.
Oui.
Je vais faire attention avec Harbert Jack Hyde, mais présentement, Eric, là, le 2 mars, là, c'est vrai.
Jack Hyde et en fin de match, je pense qu'il restait 4 minutes. On n'a plus vu Harbert Jack Hyde. On a vu Struble. On a joué à 5 défenseurs. Mais comme je dis, et puis c'est important de le dire présentement, parce que Struble, avant le tournoi des 4 nations, il n'était pas dans les bonnes grâces de Martin.
Non, et comme je l'ai dit, ça fait du bien à peu près à tout le monde, ce tournoi-là, à peu près à 100% dans l'équipe. Eric, merci encore une fois.
Ben, bienvenue, je suis content de te retrouver, Greg, puis re-bienvenue au Québec, et on va souhaiter un bon dimanche à tous les auditeurs, puis on se reparle bientôt.
On se reparle samedi prochain, ça c'est certain, puis nous, ben, on se voit cette semaine, mon cher ami.
Oui.
On peut te retrouver avec Tony Marinaro chaque jeudi, mon ami, d'ailleurs, on manquera pas ça, mettez ça à vos agendas.
D'ailleurs, je porte fièrement le chandail de Curly from Boston.
Ah oui, hein? J'en ai pas eu encore. Mais on peut en acheter. Hein? Tony a mis ça sur les internets là, qu'on pouvait acheter.
Oui, c'est Lucky Graphics, Luciano qui est le propriétaire. Et puis, il a fait plein de chandails. Puis, il pourrait en faire pour le tailgate.
Quel stunt! Moi, c'est certain que je m'en vais me chercher ce chandail-là.
Tu pourrais te faire des chandails du tailgate, par exemple, toi et Olivier.
Ah oui?
Simply the Bash.
You're Simply the Bash, hein?
Oui.
On n'a pas mis la toune encore. On va la mettre en
Je termine avec ça, là. 5 secondes. Y a-tu été bon devant Greenway, Dobesh?
Ça, c'était parfait. Ça, c'était parfait.
C'est-tu écœurant?
Tu sais, on parle de Jack High, là, justement, là, qui est allé le voir après. Là, peut-être que Jack High a eu un match plus difficile. Il était là. Hey, mon gardien recrue, tu y touches pas. Ça, c'était parfait. Exactement.
Parfait.
Éric, merci.
Toi aussi, t'es parfait. Bye-bye, Greg. Non, bye, toi, tout le monde.
Tout le monde est parfait. Ceux qui sont parfaits, c'est nos auditeurs qui sont parfaits.